est contente. J'ai une petite fille qui est à fond, donc on a hâte d'y être. Après un mois et demi sans voir quasiment personne, sauf ma fille, les allers-retours à l'école, ouais, ça va faire du bien.
Forte affluence dans les gares depuis ce matin et vous l'entendez, des voyageurs impatients de se retrouver en famille. Plus de 750 000 personnes attendues dans les trains ce week-end. La France qui part en vacances, l'Italie qui se referme, plus de déplacements dans le pays à partir de lundi. Nous serons à Rome. En Espagne, les stations de ski restent ouvertes et certains Français ont franchi la frontière pour dévaler les pentes. Nous serons dans les Pyrénées catalanes. Grand témoin de ce journal, le professeur Renaud Piaroux, spécialiste des épidémies. Il nous donnera ses conseils pour passer un réveillon dans les meilleures conditions sanitaire possible, alors que nous avons franchi hier en France la barre des 60 000 morts et qu'Emmanuel Macron est toujours confiné à la lanterne à Versailles. Dans le reste de l'actualité, un Français mis en examen et incarcéré dans le scandale sexuel de l'affaire Epstein, un ancien agent de mannequin soupçonné d'avoir servi de rabatteur pour le milliardaire américain. Le Conseil au climat qui dit qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle attribution pour la 5G sans une évaluation. L'actualité sportive avec les handballeuses françaises en finale du championnat d'Europe, ce sera demain face à la Norvège. La météo, de la pluie sur le sud, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Ils seront deux à vous raconter une scène incroyable en plein Paris. Jeanne Bergaoui et Pierre Herbulot ont dîné dans un bistrot cette semaine avec des convives qui tombent le masque sans voir où est le problème du risque de contamination.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Beaucoup de personnes attendues dans les gares tout le week-end pour ces départs en vacances, tant espérés par beaucoup de Français. 750 000 voyageurs annonçaient la SNCF pour ces départs de Noël. Marion Gauthier, vous êtes depuis tôt ce matin à Gare Montparnasse à Paris. Et c'est vraiment l'affluence, on sent une vraie envie de se retrouver en famille pour les fêtes.
Oui, les voyageurs sont arrivés progressivement. C'est un flot quasiment continu qui remonte du métro jusqu'au Grand Hall et forme une foule compacte mais masquée sous les panneaux d'affichage. Des panneaux que ne quitte pas des yeux Myriam, enfin, sauf pour regarder sa montre.
C'est le grand départ. Je suis pressée d'être arrivée un peu et me mettre à l'abri, ne pas avoir autant de monde devant moi.
Du monde chargé de sacs dans lesquels on aperçoit du papier cadeau, de valises sur lesquelles beaucoup d'enfants sont assis. Ce délice trépigne. Le train, c'est le Graal, le soulagement pour toute la famille.
Pour moi, c'est une trêve parce que je crains le retour qui va être un peu compliqué. On va prendre un grand souffle là, on va une respiration et puis... On aura un peu d'apnée encore, je pense, quelques mois en début d'année 2021.
En attendant, on oublie l'année 2020. Lâche Camille, sa petite fille qui la tire par la manche. Elles vont garder leur masque pendant ces vacances, mais au moins briser la solitude des grands-parents.
On est contente. J'ai une petite fille qui est à fond, donc on a hâte d'y être. La nuit a été courte, mais ça va aller. Après un mois et demi sans voir quasiment personne, sauf ma fille, les allers-retours à l'école, ouais, ça va faire du bien. Il était temps. Ah, quoi ça ? Allez, c'est parti, on y va ? Go ! Merci.
Voilà, beaucoup d'émotions, on l'entend ce matin, Gare Montparnasse à Paris, dans les témoignages recueillis par Marion Gauthier. Alors si on desserre les taux en France, en Italie, on serre la vis. Le gouvernement a annoncé hier soir de nouvelles restrictions pour les fêtes de fin d'année. Blandine Hugonnet, vous êtes à Rome pour Europe 1. Ça veut dire notamment qu'à partir de lundi, on ne peut plus se déplacer dans le pays.
Et oui, dès lundi prochain, interdit de circuler entre les régions italiennes et ça se durcit même à partir du 24 décembre et jusqu'au 6 janvier. Interdit de sortir de chez soi sans attestation pendant les fêtes. Ça chamboule tout pour Giuseppe. Ce Romain vit dans le nord et il a fait le déplacement justement pour fêter Noël en famille.
Je suis venu dès aujourd'hui exprès pour être à Noël avec mes enfants qui sont ici à Rome, mais on ne se verra pas, on sera tous bloqués, chacun chez soi.
Reconfinement total, ça veut dire aussi que tous les commerces considérés non essentiels doivent fermer pour Noël en Italie, tout comme les bars et les restaurants. Une annonce difficile à accepter pour Rosario, ce restaurateur que j'ai rencontré devant sa terrasse dans le centre de Rome.
Ça va être une grosse perte pour nous tous, les restaurateurs. On attendait ces fêtes de pied ferme pour attraper un peu l'année et en travaillant au moins une bonne semaine. Et on nous oblige à refermer. C'est vraiment dur.
Et reconfiner tout le pays, c'est une décision douloureuse mais nécessaire, s'est justifié le président du Conseil italien hier soir. Il craint une flambée des contaminations à Noël alors que l'Italie est le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 68 000 morts liées au coronavirus depuis le début de l'épidémie.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1, direction maintenant l'Espagne. Là, les bars et restaurants sont toujours ouverts avec un couvre-feu à 22h dans une majorité de régions et où, contrairement à la France, les stations de ski sont ouvertes. Henri de la Guérie, vous êtes à la Molina dans les Pyrénées catalanes. C'est à peine à un quart d'heure de la frontière française et d'ailleurs, vous me l'avez dit, certains n'ont pas résisté à venir pour chausser leurs skis.
Oui, quelques Français qui n'ont pas respecté les consignes de Jean Castex. Le Premier ministre a répété qu'il ne fallait pas aller skier à l'étranger. Hugo, la trentaine, est venu en voisin. Il travaille d'habitude dans la station des Angles. Elle est fermée. Il est au chômage partiel et ce matin, il n'a eu aucun problème pour venir en Espagne.
Il y avait les gendarmes, mais ils ne nous ont pas arrêtés. Ouais. Côté français, à la frontière, vu qu'il n'y a pas de douane, il n'y a plus personne. Non, pas ça.
Alors en théorie, seuls les habitants des alentours sont autorisés à skier. Même les Barcelonais n'ont pas le droit de venir. D'ailleurs, il n'y a pas foule aujourd'hui. Il y a de la neige partout, le ciel est bleu, les conditions sont idéales. Mais la moitié du domaine skiable est ouvert. Xavi Perpignan est le patron de la station.
Nous ici, on ne fait rien pour encourager les gens qui vivent en France à venir. La Catalogne est sous confinement territorial, ça veut dire que les Français ne peuvent pas entrer dans la région.
Et c'est vrai qu'il y a très peu de Français. Antoine est une autre exception. Il est venu avec deux amis de Perpignan. Pour lui, skier ne représente aucun risque.
Non, alors c'est vrai que cette station-là, elle oblige le port du masque, ce que je trouve bien. Et puis comme on ne loge pas ici, on ne mange pas ici non plus. Et quand on retournera ce soir chez nous, je pense que non, on ne prend pas plus de risques que si on... que si on faisait une autre activité.
Et ce soir, pour éviter d'éventuels contrôles et le risque de devoir se mettre en quarantaine pendant 7 jours, Antoine passera par des petites routes pour rentrer en France.
Alors en France, même si on semble desserrer les taux, on rappelle qu'il y a toujours un couvre-feu à 20h et on a franchi hier la barre des 60 000 morts, encore plus de 15 000 contaminations en une journée. Et comme un symbole que l'épidémie n'est pas une personne, Emmanuel Macron contrôle les positifs au coronavirus cette semaine, qui est apparu dans une vidéo hier pour dire qu'il travaillait mais au ralenti. Et comme il s'y est engagé hier, Adrien Beck, il devrait donc donner de nouveau de ses nouvelles aujourd'hui.
Oui, alors à cette heure-ci, on ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce que ce sera une nouvelle vidéo tournée par Emmanuel Macron lui-même ? Est-ce que ce sera plus sobrement un communiqué ? L'Élysée n'est pas en mesure de nous le dire. En tout cas, cette forme de bulletin de santé quotidien montre que le chef de l'État veut jouer une transparence total, et ce n'est pas vraiment dans la culture des présidents français. On se rapproche un peu en fait de ce qu'ont fait les homologues d'Emmanuel Macron atteint du Covid, Donald Trump et les communiqués quotidiens de ses médecins, les prises de parole de son entourage. Tout cela était parfois très contradictoire. Il y a aussi le cas Boris Johnson, un premier ministre britannique qui se montre au travail avant d'être finalement hospitalisé, y compris en soins intensifs. On sent qu'Emmanuel Macron veut éviter ces deux écueils. Il l'a dit d'ailleurs, normalement, ça n'évoluera pas mal, quitte à montrer une forme d'incertitude. Il reconnaît aussi un rythme de travail ralenti. Et ça, c'est vraiment une première pour Emmanuel Macron. On est bien loin de Jupiter. Le maître des horloges, ce n'est plus lui, mais le Covid.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Dans quelques minutes, nous serons avec le professeur Renaud Piarou, épidémiologiste, et nous verrons dans quelles conditions nous pourrons passer des fêtes dans de bonnes conditions sanitaires et s'il faut redouter une troisième vague.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Un Français a donc été mis en examen et incarcéré dans le volet français de l'enquête du scandale sexuel de l'affaire Epstein. Jean-Luc Brunel, c'est son nom, ancien agent de mannequin, a été mis en examen notamment pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Il est soupçonné d'avoir servi de rabatteur pour le milliardaire américain. On va revenir dans un instant sur sa mise en cause, mais d'abord Justin Morin, on va se remettre dans le contexte de ce scandale sexuel aux États-Unis.
Oui, Jeffrey Epstein, milliardaire américain, a été arrêté en juillet 2019, il y a un an et demi, pour avoir organisé un réseau de jeunes filles qu'il exploitait sexuellement. Les faits se sont passés entre 2002 et 2005, une dizaine de filles étaient concernées. L'affaire a aussi fait beaucoup de bruit parce que Jeffrey Epstein était l'ami des puissants. Et certains, comme le prince Andrew, troisième fils de la reine d'Angleterre, sont suspectés d'avoir profité des services sexuels proposés par le milliardaire. C'est en tout cas ce qui ressort de plusieurs témoignages de victimes. Dans l'attente d'un procès très attendu, Jeffrey Epstein a été incarcéré dans une prison new-yorkaise, mais il s'est suicidé un mois plus tard, c'était en août 2019.
Et donc Justin, cette affaire a eu une ramification en France, ce qui a conduit donc à cette mise en examen hier.
Oui, parce qu'il y aurait aussi des victimes françaises. Et c'est là que Jean-Luc Brunel entre en jeu. Ami de Jeffrey Epstein, il est suspecté d'avoir violé des jeunes filles que lui soumettait le milliardaire. Mais l'ex-agent de mannequin est aussi soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur. Au moins deux femmes ont raconté que Jean-Luc Brunel les avait emmenées aux États-Unis auprès de Jeffrey Epstein en leur faisant miroiter une carrière dans le mannequinat. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête préliminaire l'année dernière. Malheureusement, la plupart des témoignages recueillis et des faits liés étaient prescrits. Un appel à témoins a donc été lancé. Et cette mise en examen Saint-Germain laisse penser que les enquêteurs ont découvert de nouvelles charges contre Jean-Luc Brunel.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Quel sera l'impact du déploiement de la 5G sur le climat, en tout cas pour le Haut Conseil pour le climat? Il faut une évaluation avant toute nouvelle attribution. C'est l'une des conclusions à laquelle est arrivé le Haut Conseil pour le climat, qui avait été saisi par le président du Sénat et qui rendait un rapport qui a été publié ce matin, Virginie Salmen.
La 5G va forcément entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Tout dépendra de l'ampleur du déploiement. Si on allume la 5G pour tous, les émissions de CO2 augmenteront de 50% pour le secteur du numérique. C'est le pire scénario pour le climat. Si on utilise une 5G centrée sur les besoins des entreprises, en revanche, la hausse sera de 20%. Corinne Le Quéré, directrice du Haut Conseil pour le climat.
Les risques de hausse des émissions liées à la 5G sont dus à un renouvellement plus rapide des terminaux, comme les smartphones, l'émergence de nouveaux terminaux, donc des objets connectés, mais aussi à l'extension de l'infrastructure numérique avec davantage d'antennes, de centres de données, de data centers, tous ces objets qui émettent des gaz à effet de serre au moment de leur fabrication et lors de leurs usages.
Et puis, il existe un troisième scénario, plus sobre en émissions de CO2, qui prévoit de limiter l'accès à la 5G. Elle ne serait activée que pour désengorger les zones où la demande en Internet est forte et où la 4G ne suffit pas. Cela permettrait également de ne pas remplacer des millions de smartphones.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1. L'actualité sportive, et ça y est, voilà les handballeuses françaises en finale du championnat d'Europe. Ce sera demain à 18h face à la Norvège. Réaction en visioconférence de presse ce matin, Covid oblige. Réaction de l'arrière Aissatou Kouyaté.
Je ne sais pas si je réalise encore. Pour moi, c'est ma première compétition. C'était ma première demi-finale. Là, ça va être ma première finale. Donc forcément, bah, je suis émue. C'est de vraiment vivre les bons moments, les moments présents. Parce que je me dis, bah, je ne sais pas si je vais revivre ça un jour dans ma vie. Donc oui, très émue. Bah, c'est une grande nation, c'est sûr. Au niveau handball, je pense qu'il n'y a pas mieux. Enfin, ils sont vraiment dans le top. C'est un peu de stress. Et, c'est aussi un peu impressionnant dans le sens où on se dit bah, on va affronter les meilleurs. Mais je pense que nous aussi, on est les meilleurs.
Voilà, résultat demain, c'est donc un match qui se joue au Danemark à 18h face à la Norvège. Et puis vous avez été plus de 8 millions de téléspectateurs pour les adieux de Jean-Pierre Pernaut. Son dernier JT sur TF1 a rassemblé près de 60% de part d'audience, un record depuis 2007 pour celui qui tire sa révérence 33 ans après avoir débuté à la tête du journal de 13h. Salut l'artiste, on a envie de dire effectivement avec ce superbe score pour saluer ce départ. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi et donc beaucoup de pluie dans le sud cet après-midi, Valérie Darmon.
Effectivement Fabienne, cet après-midi, il en sera fini de l'épisode pluvieux sur les Cévennes. La zone de pluie se décale vers PACA à mesure que la dépression progresse vers l'est. De fortes intensités de pluie sont possibles très temporairement sur les Bouches-du-Rhône. Le vent reste soutenu aussi le long des côtes avec des rafales à plus de 80 km/h. Ce soir et la nuit prochaine, de fortes précipitations vont remonter aussi le long de la Côte d'Azur jusqu'aux Alpes-Maritimes et les orages demain pourraient être localement forts et durer surtout toute la journée. Pour le reste, les pluies finissent de traverser le pays d'ouest en est, tandis que les éclaircies reviennent dans les heures qui viennent, mollement, mais tout de même, sur la façade ouest. Les températures sont douces dans ce contexte, 8 annoncées cet après-midi à Strasbourg et Belfort, 11 à Charleville et Dunkerque, 12 degrés à Saint-Étienne, à Paris et à Chambéry, 13 degrés à Saint-Girons, à Agen, à Cherbourg et Nevers, 14 à Nice et Besançon, 15 degrés à Carcassonne et Albi et 16 degrés enfin à Marseille et Biarritz.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, on a donc franchi la barre des 60 000 morts en France ces dernières 24 heures, encore plus de 15 000 contaminations. Comment échapper à la troisième vague alors que partout en Europe, on serre la vis? On pose la question au professeur Renaud Piarroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, grand spécialiste de la gestion des épidémies. Il est mon invité dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
On a donc franchi la barre des 60 000 morts en France ces dernières 24 heures, encore plus de 15 000 contaminations en une journée. Et comme un symbole que l'épidémie n'épargne personne, Emmanuel Macron contrôle les positifs au coronavirus cette semaine. Bonjour professeur Renaud Piarroux.
Bonjour.
Chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, grand spécialiste de la gestion des épidémies, notamment l'épidémie de choléra, auteur de La Vague, l'épidémie vue du terrain aux éditions du CNRS. On en est où justement de cette deuxième vague en France qui ne semble pas en finir ?
Oui, finalement, on disait qu'il va y avoir une troisième vague, mais ça va être le prolongement de la deuxième vague. En fait, on en est à une stabilisation et même à une légère remontée depuis à peu près une quinzaine de jours.
Alors, tous les autres pays européens serrent la vis. L'Italie, qui cette nuit a annoncé l'interdiction de tous les déplacements dans le pays, une seule sortie par jour tolérée en pleine période des fêtes. L'Allemagne, qui a donc fermé cette semaine ses commerces non essentiels. La Suède, qui recommande désormais le masque dans les transports. L'Autriche, qui annonce déjà un troisième confinement juste après Noël. En France, en revanche, on desserre les taux pour ces vacances. C'est risqué pour vous ou c'est parce qu'on a de meilleurs résultats, on est meilleur que les autres ?
C'est risqué, mais si on le fait, c'est qu'il y a une pression sociale. Il y a besoin de toute façon de souffler un peu, mais ça comporte quand même pas mal de risques. Et notre situation est pas forcément meilleure que celle de tous les pays européens. Le nombre de nouveaux cas en Italie n'est pas plus fort qu'en France, il est même plus faible.
C'est risqué jusqu'où de desserrer les taux ?
Le problème est bien sûr les retrouvailles liées aux fêtes de Noël, les déplacements, le fait de retrouver la famille. Donc il y a un brassage qui se fait, qui va s'intensifier au moment du réveillon de Noël, mais qui commence déjà avec le départ en vacances d'un grand nombre de personnes. Comme il faut quand même garder toute la population prisonnière, c'est juste insupportable. Il est important de pouvoir le faire, mais alors en prenant un maximum de précautions.
Alors justement, on a entendu dans le journal ces Français dont vous parlez avec une vraie joie de se retrouver en famille pour les fêtes de fin d'année. Comment passer ces fêtes en toute sécurité sanitaire ? Concrètement, quelle attitude il faut adopter alors qu'on est aujourd'hui à 6 jours du réveillon ?
Déjà, ceux qui ont pu le faire, de s'isoler avant, ou plus exactement, de diminuer au maximum les interactions sociales avant, pendant les 10-15 jours qui précèdent les fêtes de Noël, c'était une bonne idée, parce que ça limite quand même le risque d'arriver en repas de famille en amenant le virus. La deuxième chose, pendant le repas, donc de prendre toutes les précautions possibles, déjà de ne pas être nombreux, le moins nombreux on est, mieux c'est. Et puis,
c'est quoi votre chiffre, professeur Piarou, le moins nombreux possible ?
C'est moins de 6 idéalement, parce que c'est quand même ce qui est proposé par le gouvernement. Mais même à 6, il y a déjà une augmentation du risque, ça on le sait très bien. Mais si on fait attention, d'un côté, un isolement avant, de ne pas être nombreux, et surtout, tant pis, mais il faut éviter les embrassades, on commence à diminuer le risque.
Ça veut dire que concrètement, quand vous parlez s'isoler, on a parlé d'autoconfinement. Ça veut dire qu'il faut porter le masque tout le temps à partir de maintenant ?
Ah non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de limiter les contacts. Hier, j'ai croisé des personnes que je connaissais. Il y en a un qui m'a proposé d'aller boire un verre. Eh bien, je ne suis pas allé. C'est typiquement ce genre de choses. C'est en disant, je vais limiter les interactions pendant toute la période des vacances de Noël pour finalement n'avoir que le risque au moment du réveillon, mais d'avoir un risque vraiment diminué au maximum.
Justement, le soir du réveillon, comment j'organise ma table pour limiter ce risque ? Concrètement, puisque je sais que vous êtes très pédagogue justement par rapport à ça, ça veut dire qu'on aère la pièce ? Ça veut dire que effectivement on se met à 2 mètres de distance à table ?
Alors, ce qu'il faut réussir à faire, c'est être relativement éloigné à table. Tant qu'on n'est pas à table, qu'on discute, on peut quand même garder le masque, un peu comme on fait dans les restaurants, comme on faisait dans les restaurants jusqu'au moment où ils ont fermé. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas servi, on est avec le masque, on discute avec le masque. Et ensuite, si on est suffisamment éloigné à table, on limite quand même les risques de transmission. Le lavage des mains, le fait d'avoir une solution hydroalcoolique, le fait de se laver les mains avant le repas et puis un peu plus tard dans la soirée, c'est quand même une chose utile. Si les températures le permettent, il vaut mieux aérer au maximum. Et puis, surtout, éviter les embrassades, la bise, cette soirée-là, tant pis, on fera ça un peu plus tard au printemps.
Alors, on a vu que beaucoup de Français, professeur Piarou, ont pris des rendez-vous dans les laboratoires pour aller se faire tester. C'est ça aussi la bonne solution pour ne pas courir de risques au réveillon ?
Ça n'enlève pas tous les risques. On a bien compris, un, que les tests n'étaient pas fiables à 100%, c'est-à-dire qu'on peut vous rendre un test négatif alors que vous êtes réellement contagieux. Surtout les tests antigéniques, ceux qu'on rend en une demi-heure ou en un quart d'heure. La deuxième chose, c'est que même si vous êtes négatif à un moment donné, ça ne veut pas dire que le lendemain, vous ne serez pas positif.
Professeur Piarou, quel crédit accorder justement à ces tests antigéniques quand on voit que certains ont été retirés des pharmacies parce qu'il y avait trop de négatifs? Comment avoir confiance?
Pour tout dire, je n'ai pas vraiment confiance dans les tests antigéniques. On sait qu'ils ont une sensibilité, donc une capacité à trouver les positifs acceptable si ce sont des gens malades pendant les 3-4 premiers jours de la maladie, et encore, ce n'est pas tous les tests. Donc, ces tests-là, par exemple, ne sont pas utilisés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On n'utilise pas les tests antigéniques. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que ces tests manquent de fiabilité.
Professeur Piarou, on a bien compris que cette période des fêtes va être décisive pour savoir si on va éviter une troisième vague. Est-ce qu'on peut vraiment l'éviter? Vous nous dites vous-même que finalement, cette troisième vague, elle s'annonce, elle va être le prolongement de celle qu'on vit actuellement.
En fait, on le voit bien, la transmission du virus est extrêmement difficile à ralentir. On est déjà, de toute façon, sans parler de confinement, un couvre-feu à 20 heures, c'est quand même des conditions à peu près similaires à celles qu'on avait pendant le confinement, où les lycées étaient ouverts et où les magasins étaient ouverts. Donc on est finalement dans une situation où on essaye de trouver un équilibre entre continuer à vivre et lutter contre la transmission. Et pendant encore plusieurs mois, le temps qu'il y ait suffisamment de personnes vaccinées, on va se trouver dans cette situation. Ce qu'on espère, c'est qu'on ne soit pas obligé de durcir encore les mesures au mois de janvier. Et ça, ben, on le verra après les fêtes de Noël. Hein. On ne peut pas l'inventer maintenant.
Est-ce qu'effectivement, on ne court pas le risque forcément d'être confiné comme ce que sont en train de faire nos voisins européens?
Actuellement, avec un couvre-feu et avec toutes les mesures qui sont prises, on n'est pas très très loin d'un confinement. Est-ce que ça va suffire ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que le nombre de cas va augmenter? Ça semble déjà avoir pris cette pente-là. Est-ce que ça va augmenter trop et qu'on va être obligé de resserrer la vis? C'est probable. Dire que c'est certain, c'est plus compliqué.
Merci beaucoup, professeur Renaud Piarou, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, auteur de la vague d'épidémie vue du terrain aux éditions du CNRS. On a bien retenu votre message pour cette soirée de réveillon. Aérer, bien se laver les mains, se tenir à distance et puis éviter de laisser trop tomber le masque. Et surtout, vous l'avez bien répété, pas d'embrassade, même si on en a tous envie. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Et vous le savez, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 à partir de 13h. Les restaurants sont fermés. Pourtant, deux reporters d'Europe 1, Jeanne Bergaoui et Pierre Herboulot, ont dîné dans un bistrot cette semaine. Scène à peine croyable en plein cœur de Paris, avec des convives qui tombent le masque sans avoir le moindre problème avec le risque de contamination.